entendre quelques expériences faites avec le Seigneur. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont fait une expérience avec le Seigneur particulièrement et qui voudraient partager cela avec nous? Pas forcément un témoignage de conversion. Il n'y a personne? Bon, eh bien alors je vais être seul à parler cet après-midi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. On revient donc dans cet évangile, cette fois au chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Ce passage que nous venons de lire ensemble et que la plupart d'entre vous, sinon tous, connaissent très bien, nous rapporte la conversation ou l'une des conversations les plus connus et remarquables qui se trouvent dans les Écritures, au cours de laquelle d'ailleurs, eh bien, le Seigneur Jésus offre le salut à une femme qui est réprouvée, mais il offre le salut à cette femme réprouvée, je dirais, à la manière de quelqu'un qui offrirait de l'eau à boire. Peut-être que cela vous semble curieux, et peut-être aussi vous pouvez penser que cette manière d'agir, eh bien, elle manque d'efficacité ou n'est pas tout à fait conforme à ce que nous pensons lorsqu'il faut rendre témoignage. Parce qu'effectivement, si vous prêtez attention à ce que nous venons de lire, Jésus n'a pas parlé du salaire du péché, il n'a pas parlé de repentance, il n'a pas parlé de la foi, il n'a pas parlé de l'expiation, ni de sa mort pour le péché, ni de sa résurrection. Et pourtant, eh bien, ce qu'il a dit a une répercussion extraordinaire, parce que nous voyons que cette femme, elle s'est tournée vers le Messie d'une manière très résolue, et elle a été tellement convaincue qu'elle est allée dire à tous ceux qui se trouvaient en Samarie et qui étaient ses amis qu'elle avait trouvé le Messie. Je dirais que cette femme avait un cœur qui avait été déjà préparé par le Saint-Esprit. C'est inutile que nous spéculions sur les connaissances des vérités spirituelles qu'elle pouvait avoir. Il y a une grande différence entre cette femme et à qui le Seigneur Jésus a porté le témoignage de sa divinité et du fait qu'il était le Messie, et puis cette conversation qu'il avait eue au chapitre précédent, au chapitre 3, avec un homme qui, lui, était un théologien. En effet, au chapitre 3, Jésus parle avec Nicodème, dont l'Évangile nous dit que c'était un docteur de la loi. Elle n'était pas théologienne. Toutefois, elle était prête à reconnaître son péché et accueillir Christ. Et nous pouvons constater ensemble comme cela a été une évidence pour elle, et immédiatement, elle s'est ouverte à ce qu'elle entendait de la part du Messie, de la part du Seigneur. Il faut dire que le Seigneur poursuivait un but, c'était d'attirer le cœur de cette femme à lui, et par ce moyen-là, bien sûr, lui permettre d'accéder au salut et à l'obtention de la vie éternelle. Je voudrais vous faire remarquer, bien que je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez très bien, la grande différence qu'il y a entre cette femme et le théologien duquel je viens de parler, Nicodème. Essayons de mettre quelques points en relief. Nicodème, c'était un homme. Elle, c'est une femme. Lui, c'était un chef religieux. Elle, c'était une femme adultère. Lui était riche, elle était pauvre. Il reconnaissait Jésus, Nicodème, comme étant un docteur venu de Dieu. Elle ne savait même pas qui était le Seigneur Jésus. Et l'autre était instruit, il connaissait beaucoup de choses, parce que c'était justement un théologien dans le domaine de la religion, mais elle était totalement ignorante. Lui était membre justement d'un service religieux très important. Elle ne savait absolument rien en matière de religion. Et je vais ajouter ceci, en ce qui concerne son statut social, eh bien, c'était vraiment une femme qui était considérée comme une prostituée. C'est vrai que nous qui connaissons maintenant ce texte, eh bien, nous savons qu'elle avait eu une série d'adultères et de mariages malheureux, et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas connaître de véritable bonheur. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le Seigneur ne l'a pas rejetée. Le Seigneur ne l'a pas méprisé. Et c'est là pour moi une occasion de dire que Jésus est venu pour renverser toutes les murailles que les hommes se sont complus à élever par des systèmes religieux entre eux. Je voudrais mettre aussi en relief, parce que le début de ce texte que nous avons lu le souligne, Jésus était en Judée. Il connaissait un certain succès parce qu'il y avait des foules qui le suivaient, qui étaient attachées à ses lèvres, bien que pour autant ils n'avaient pas donné leur cœur. Leur attachement à Jésus était très superficiel, mais Jésus, en tous les cas, pouvait être enthousiasmé par la foule qui le suivait partout. Mais il quitte cette foule-là pour aller en Galilée. Et pour aller de Judée en Galilée, un juif ne prenait pas le chemin que Jésus a pris. Il passait par le nord de la Judée, longeait l'est du Jourdain pour arriver en Galilée, parce qu'il y avait une telle antipathie entre les Juifs et les Samaritains qu'aucun ne se permettait de traverser la Samarie. Il pensait peut-être qu'en faisant cela, eh bien, il serait souillé. Je vous ai déjà dit dans d'autres circonstances que l'attitude d'un juif vis-à-vis d'un samaritain était assez exécrable. La preuve, c'est que des historiens racontent que le juif, quand il croisait sur le chemin un samaritain, il crachait par terre avec un grand mépris et disait « le sang d'un porc est plus pur que le sang d'un samaritain ». C'est vrai qu'avec une telle disposition de cœur, eh bien, on ne pouvait pas aborder facilement quelqu'un à qui on voulait parler de l'amour de Dieu. Mais Jésus, justement, renverse toutes ces murailles-là. Il va droit au but, il arrive là, et le texte dit bien, il fallait qu'il passe par la Samarie. À partir de ce que je viens de dire, ce n'était pas obligé que le Seigneur passe par ce chemin-là. Mais il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il y avait un rendez-vous avec cette femme-là. Elle avait besoin d'entendre le Seigneur lui parler, et Dieu, du haut du ciel, eh bien, savait qu'il était absolument nécessaire que cette femme rencontre son fils bien-aimé, Jésus. Dans la vie, certaines personnes disent toujours au sujet de certaines circonstances, « Ah, ça a été le hasard. » Eh bien, non, il n'y a pas de hasard. Dieu, lui, il dirige tous les pas de notre vie, il favorise toutes les circonstances, et je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que Dieu ne laissera jamais aucune personne sans avoir au moins une fois l'occasion d'entendre parler de son fils bien-aimé. Et cet après-midi, si c'était le cas pour quelqu'un qui encore ne possède pas l'assurance du salut et de la vie éternelle, c'est ma joie et mon devoir de vous dire, ce n'est pas le fait du hasard que vous êtes là. Le Seigneur l'a voulu. Il faut rencontrer le Seigneur. Et Jésus, voilà un autre aspect de sa personnalité qui m'intéresse beaucoup. Il est dit que fatigué du voyage, il s'est assis sur la margelle de ce puits appelé le puits de Jacob. Voilà Jésus qui apparaît à nos yeux comme un simple homme. Et voilà le contraste formidable qui se trouve dans la Bible. D'un côté, il y a cette affirmation, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et de l'autre côté, Jésus est parfaitement homme. Et comme il est parfaitement homme, il peut connaître vraiment, par expérience personnelle, tout ce que nous, nous pouvons traverser pendant notre pèlerinage terrestre. D'ailleurs, il y a une autre déclaration qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui dit que Jésus peut compatir parfaitement à toutes nos faiblesses, Parce que, ayant revêtu une chair semblable à la nôtre, il a été tenté en toutes choses, sans jamais succomber au péché. Il peut donc parfaitement nous comprendre. Il sait ce que c'est que la fatigue. Il sait également, quand nous sommes troublés, ce que c'est que d'être dans l'angoisse. Il y a même des versets bibliques qui mettent en relief que Jésus a été troublé. Par exemple, ce matin, je parlais de Judas. Et à cause de l'attitude de Judas, dans ce même évangile, il est dit « Jésus était troublé à cause de l'attitude et du comportement de cet homme, en face également de cette grande souffrance qu'il attendait sans perdre la joie, qui ne l'a jamais quittée, la joie d'accomplir la volonté de son Père qu'il avait envoyé pour qu'il connaisse la croix. Jésus quand même a aussi subi les angoisses et les terreurs de cette mort ignominieuse dont Jésus peut parfaitement nous comprendre. Il sait très bien ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Et en tous les cas, nous pouvons être sûrs qu'il ne nous condamnera jamais, qu'il ne nous jugera jamais. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. C'est la raison pour laquelle il entre en contact avec cette femme, et vous avez remarqué, comme moi, c'est lui qui fait le premier pas. Il est là, il voit cette femme qui arrive à une heure incongrue. Il faut reconnaître, c'est pas à cette heure-là, il est parlé de la sixième heure, c'est-à-dire midi, ce n'est pas à cette heure-là que l'on vient chercher de l'eau, soit pour préparer le repas ou pour faire autre chose. Non, ce n'est certainement pas à cette heure-là. Mais pourquoi venait-elle à cette heure-là? Parce que si elle aurait choisi une autre heure, eh bien, elle aurait subi, je dirais, le jugement, l'ironie, le sarcasme de tous ceux qui la connaissaient, qui connaissaient aussi son passé, cette vie déréglée, et qui auraient pu jouer du coude et dire entre eux, « As-tu vu celle-là? As-tu remarqué cette femme? As-tu remarqué ce genre de prostituée ?» Non, elle est venue là parce qu'elle savait qu'elle ne trouverait personne, sauf que Jésus était là. Et entrant en contact avec le Seigneur Jésus, quelle stupéfaction pour elle de l'entendre lui demander « Donne-moi de l'eau ». Et elle, très surprise, elle dit « Mais comment ? Toi qui es juif, tu demandes à une femme samaritaine de te donner de l'eau ?» Et elle était vraiment surprise. On peut comprendre, parce que nous, dans notre société actuelle, au sein de notre civilisation, eh bien, on n'a pas la même mentalité, ni le même esprit qui se dégageait à cette époque-là. Et vous savez, déjà à cette époque-là, ne serait-ce qu'un homme en public puisse parler à une femme, c'était quelque chose d'inconvenant. Même le mari d'une femme, même légale, eh bien, n'aurait pas fait cela en public. Vous imaginez un petit peu? Et là, c'est Jésus qui s'adresse à elle et qui lui dit « Donne-moi de l'eau à boire ». La surprise est grande. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer un autre point. C'est curieux, Jésus lui parle comme si c'est lui qui avait soif, qui avait besoin de l'eau, et c'est elle qui devait lui apporter l'eau. Et la situation, pendant la conversation qu'il a eue avec elle, s'est renversée. Et d'un seul coup, c'est elle qui a soif, et c'est elle qui demande à lui, « Donne-moi à boire. » Parce que il a changé les choses et a mis en relief que ce à quoi elle faisait allusion, l'eau de ce puits de Jacob, et d'ailleurs elle en parle comme une tradition, elle dit « Mais c'est le puits de l'ancêtre, Jacob es-tu plus grand que lui ?» et comment ça se fait que tu sois capable ainsi de, en quelque sorte, révoquer certaines traditions, certains us et coutumes pour m'adresser la parole de cette manière-là? Et d'un seul coup, tout est changé. Vous savez, C'est un peu ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous. Quand nous sommes venus et nous sommes approchés du Seigneur, eh bien, nous avons pu venir avec certaines prétentions, croyant que peut-être nous avions quelques mérites, croyant aussi que nous étions peut-être supérieurs à un tel, à un autre tel. Et puis quand nous avons entendu le message de l'Évangile, nous avons vu que finalement, nous avions besoin du Seigneur. Enfin, c'est curieux, il y a des personnes qui arrivent et on a l'impression qu'elles veulent donner même des leçons au Seigneur, elles veulent même lui dire ce qu'il faudrait faire. Elle est peut-être venue dans une certaine disposition de cœur, mais Jésus a changé son comportement complètement. Tenez, ce matin, j'étais moi-même surpris après le culte, comme vous le savez la plupart d'entre vous, j'ai eu un entretien avec des personnes qui étaient là ce matin. Et j'ai été frappé par l'attitude justement du monsieur qui m'a dit « J'ai été très attaché à la tradition. Ce que j'ai fait pendant toute ma vie jusqu'à maintenant, il y a une quarantaine d'années, eh bien, c'était de me soumettre à la tradition. Et évidemment, pour moi, ça revêtait une certaine importance. Mais quelle déception pour moi de me rendre compte que tout en étant attaché à la tradition, dans un moment de difficulté, je n'ai pas pu compter sur ceux qui pratiquaient cette religion-là. Et cet homme a reconnu que finalement, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est l'Évangile. Ce n'est pas le système religieux ou la religion, mais Christ lui-même. Et notre intérêt à nous chrétiens, je m'adresse aux chrétiens ici, c'est de mettre toujours en relief. Oui, nous faisons partie de l'Église évangélique, si vous voulez, oui, ou de l'Assemblée biblique, comme vous voulez. Mais avant tout, nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ce que nous devons mettre en relief, c'est que Jésus est le chef de l'Église. C'est de lui dont on a besoin. Et vous savez, ce qui les a plus frappés, c'est simplement d'entendre dire que c'est lui la réponse à toutes nos questions. C'est lui la réponse à tous nos problèmes, la solution à tous nos problèmes. Et finalement, on se rend compte comment le Seigneur est capable, même en dehors d'un contact avec nous, de préparer, de disposer certains cœurs. Et là est le sujet de prière pour nous chrétiens. De dire, Seigneur, dispose favorablement les cœurs. Car voyez-vous, nous pouvons être attachés à certaines méthodes, à certaines choses, et de dire à l'intérieur de nous-mêmes, il faut agir de telle et telle manière. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs et chers amis, ce que Dieu ne fait pas, jamais aucun d'entre nous ne pourra l'accomplir et le réaliser. Et moi, je suis reconnaissant au Seigneur, parce qu'il y a eu des hommes qui ont été comme des intermédiaires, des canaux de bénédiction entre Dieu et moi pour m'apporter le message de l'Évangile. Mais je voudrais vous dire, si le Seigneur n'avait pas disposé favorablement mon cœur, eh bien je serais resté fermé à l'Évangile. Des fois nous sommes étonnés, nous disons mais pourquoi ? Pourquoi tellement de personnes entendent, ne saisissent pas, ne comprennent pas ? Ils sont là, il semble que c'est clair ce qui est dit, mais ils restent avec un cœur fermé. Mais oui, pourquoi ? Parce que il n'y en a qu'un seul qui a la clé du cœur humain et qui peut l'ouvrir pour que la parole de Dieu pénètre et qu'elle y accomplisse un miracle formidable. D'ailleurs, remarquez encore une fois, comment Jésus a tiré cette femme de sa tradition ? Parce que tout en étant une femme pécheresse, elle l'a reconnue après, mais tout en étant une femme pécheresse, elle était attachée à certains principes, avez-vous remarqué ? Quand il est question de servir Dieu, quand Jésus la met en face de cette responsabilité d'adorer Dieu, et parce que c'est le propre de toute créature qui d'un seul coup réalise qui est le Seigneur, il doit devenir un adorateur, mais elle est étonnée, elle dit oui mais où et comment ? Vous voyez, j'ai noté sur ma petite feuille de notes cette expression je vous la livre telle qu'elle m'est venue dans l'esprit. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est qui on adore. Et cette femme était attachée à la religion et à un lieu. Alors elle a dit, mais nous les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim, tandis que vous, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Et Jésus a remis les choses en place. En fait, il a voulu lui dire, mais d'une manière très simple, beaucoup plus simple que ce que je suis en train de le faire maintenant. Jésus a voulu lui dire, mais pour adorer Dieu, pas la peine de faire des kilomètres. Là où nous sommes, tu peux adorer Dieu. Parce que finalement, il lui a dit, Dieu, il est en tout lieu. Dieu, il est à Jérusalem. Il est sur le mont Garizim. Il est à Rome. Il est ici, à Aubagne, j'allais dire Marseille. Il est partout. Dieu, là où on ouvre son cœur, nous le trouvons. Et c'est là que nous pouvons l'adorer. Et alors, cette femme a été très surprise. Ah oui, c'est comme cela. Et puis, Jésus lui a expliqué que finalement, eh bien, il allait y avoir celui qui est le Messie. Et d'ailleurs, elle-même le comprenait, puisqu'elle en a fait mention. Elle avait une certaine connaissance à ce niveau-là. On dit qu'il doit y avoir un Messie. Et comment Jésus a mis les choses simplement devant ses yeux. Je le suis, moi qui te parle. Et puis, quand je dis cela, en même temps, je frémis à l'intérieur de moi-même. Imaginez mes frères et sœurs, imaginez qu'il y ait quelqu'un là, peut-être pour la première fois, à qui on présente le message de l'Évangile. Écoutez bien, le prédicateur peut déployer des efforts considérables. Mais ce qui est essentiel, c'est que la personne en question puisse d'un seul coup réaliser « Mais Jésus est Dieu ». Et qui peut révéler cela ? Le seul, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin, dans toutes les réunions, aussi simples soient-elles, et quelle que soit la forme de la réunion, nous avons besoin que, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, quand nous chantons, quand nous rendons témoignage, quand nous prêchons, nous soyons conscients que l'Esprit de Dieu est là. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et finalement, réfléchissons ensemble. Quand est-ce que nos cœurs se sont ouverts, se sont réjouis et ont proclamé qu'ils étaient heureux parce qu'ils étaient sauvés? Le jour où il y a eu cette révélation, Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, je crois en lui. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on adore, on glorifie le Seigneur. Et je vais ajouter un dernier point. Son cœur était tellement rempli, en un instant, elle a bu de cette eau vive, après avoir confessé ouvertement qu'elle a été sa vie, parce que Jésus l'a amené très doucement sur ce chemin-là, et il lui a dit, va chercher ton mari. Et honnêtement, elle a dit, mais je n'ai pas de mari. Et quand le Seigneur a dit, tu as eu raison de dire cela, parce que tu en as eu cinq, et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et écoutez, j'en connais beaucoup qui auraient dit, oh ben dis donc, dans la manière dont tu vis ta vie, c'est pas la peine que tu restes au milieu de nous, va-t'en. Parce qu'il n'y a pas de place pour toi, pour le salut. Avez-vous vu, remarqué comment le Seigneur a parlé? Il a parlé à cette femme, vraiment, comme chacun a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Il n'y a pas eu, justement, cette action, je dirais, légaliste, rébarbative, qui repousse, mais il y a eu l'attraction. Jésus a manifesté à cette femme que malgré ce qu'elle était, lui l'aimait et voulait la sauver. Et certainement qu'il s'est passé un miracle. La preuve, c'est qu'elle est repartie. Et vous savez, le propre de tous ceux qui ont vraiment eu la révélation de qui est le Seigneur, c'est de dire aux autres, j'ai trouvé le Messie. Elle est allée dire à tous ceux qu'elle connaissait en Samarie, « J'ai trouvé le Messie, venez voir !» Et elle a été tellement convaincante qu'il y a des personnes qui ensuite sont venues vers le Seigneur. Et ils ont dit, « Maintenant, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais nous avons pu voir de nous-mêmes, constater de nous-mêmes. » Vous savez, la meilleure chose, c'est l'expérience qui se passe entre Jésus et nous, les intermédiaires, même si nous pouvons remercier le Seigneur pour eux, n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous expérimentons quand nous touchons le bord du vêtement de Jésus. Quand nous touchons à la grâce de Dieu et que nous sommes sauvés, alors nous n'avons qu'une seule envie, c'est d'adorer Dieu et de rendre témoignage de son amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tant mieux, parce que moi je suis d'accord avec moi. On va prier le Seigneur.